en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le moment est venu de nous rendre sous la coupole pour la séance de rentrée de l'Académie des sciences morales et politiques. Cette séance s'est tenue le 7 novembre 2005. Elle est présidée cette année par Monsieur Jean Tullard, qui va ouvrir cette séance et dresser le bilan d'une année de communication sur le thème « Peut-on faire confiance aux historiens ?»
La séance est ouverte. Deux de nos confrères nous ont quittés cette année. Maître Jean-Marc Varraud, avocat au barreau de Paris. Il était juriste, mais aussi philosophe, ayant écrit un Descartes cavalier français, historien. Il avait rédigé le procès Nuremberg, le procès Pétain, le barreau sous la Révolution, amateur de poésie, auteur d'une anthologie « Poètes en prison », en sorte que l'on ne savait plus à quelle section de notre académie il appartenait. Un mot le résume, le courage. Face au lynchage médiatique de certains de ses clients, il sut toujours faire face avec panache. Normalien, agrégé, docteur en philosophie, Jean Cazeneuve était tout aussi protéiforme. Ne fut-il pas professeur de sociologie à la Sorbonne, président-directeur général de TF1, ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, auteur de nombreux ouvrages de sociologie. Lui, c'était l'humour qui le caractérisait. Il avait écrit « Le mot pour rire » et « Du calembour ». Lors des déjeuners qui suivaient les conseils d'administration de la Fondation Thiers, nous avions été, l'un et l'autre, pensionnaires. C'était un feu d'artifice. À la fin du repas, nos confrères des autres académies me disaient « On ne doit pas s'ennuyer aux sciences morales et politiques ». Espérons que cette séance ne fera pas mentir notre réputation. Ce serait le plus bel hommage à rendre à Jean Cazeneuve. Cette séance de rentrée comprend trois parties. Un discours du président pour résumer les communications de l'année, centré sur « Peut-on faire confiance aux historiens ?» Puis l'exercice particulièrement redoutable de la lecture du palmarès confié au vice-président de l'Académie, et enfin le discours de notre secrétaire perpétuel, un roc parmi la tourmente. Monsieur le député, monsieur le ministre, membre du Conseil constitutionnel, monsieur le grand chancelier, monsieur le vice-amiral d'escadre, monsieur les ambassadeurs, messieurs et mesdames les fondateurs de prix, monsieur le chancelier, monsieur, ou messieurs plus exactement, et madame les secrétaires perpétuels, monsieur le président, mes chers confrères, mesdames, messieurs. À Sainte-Hélène, Napoléon découvre la sagesse. S'interrogeant sur l'image que les historiens donneront de lui, il confie à Lascazes, il faut en convenir, les véritables vérités sont bien difficiles à obtenir pour l'historien. Heureusement que la plupart du temps, elles ne sont qu'un objet de curiosité sans réelle importance. C'est dire le peu d'intérêt attaché par Napoléon à l'histoire, du moins en apparence. Pour lui, la vérité historique n'existe pas. Elle n'est, le plus souvent, dit-il, qu'un mot. Je le cite, « Cette vérité historique est impossible au moment même des événements, dans la chaleur des passions, et si plus tard on trouve un accord, c'est que les intéressés, les contradicteurs, ne sont plus. Qu'est alors la vérité historique, une fable convenue. Et de souligner l'absurdité de toute biographie. J'ai donné un ordre, mais qui a pu lire le fond de ma pensée, ma véritable intention ? Et pourtant, chacun va se saisir de cet ordre, le mesurer à son échelle, le plier à son plan, à son système individuel. Napoléon n'a pas tort. Il est impossible pour l'historien de pénétrer dans l'âme humaine. Orson Welles le rappellera dans son film « Citizen Kane ». L'enquêteur ne saura jamais ce que signifiait le dernier mot prononcé par le magnat de la presse, Kane, « Rosebud ». Et la grille du château de Xanadu se refermera, comme elle s'était ouverte, sur l'écriteau « No trespassing », défense d'entrée dans la vie d'un homme. Certes, on fera remarquer que cet homme peut se livrer à travers ses mémoires. Mais n'écrivent leurs mémoires, à quelques exceptions près, que ceux qui ont quelque chose à cacher. Va-t-on faire confiance aux mémoires de Talleyrand ou de Fouché ? Écrivent également leurs mémoires ceux qui s'admirent tous les matins dans leur glace et veulent faire partager cette admiration à leurs contemporains. En sorte qu'à quelques exceptions, le choix est entre le mensonge ou la géographie. Revenons à Napoléon qui n'aimait pas les auteurs de mémoires tout en dictant les siens à Sainte-Hélène. On me supposera des projets que je n'eus jamais. On se demandera si je visais à la monarchie universelle ou non. On raisonnera longuement pour savoir si mon autorité absolue et mes actes arbitraires dérivaient de mon caractère ou de mes calculs, si mes guerres constantes vinrent de mon goût ou si je n'y fus conduit qu'à mon corps défendant. Il en sortira, conclut l'empereur, la fable convenue qu'on appellera mon histoire. Ainsi, mesdames, messieurs, si l'on en croit Napoléon, tout ce qui s'écrit sur lui ne peut être que faux, au mieux convenu. Vous comprendrez alors l'accablement de votre président, historien de Napoléon, à la lecture de cette page du mémorial. Certes, il partage cette opprobre avec Thiers, Vandal, Madelin, Housset, Dunant, Castelot et parmi les vivants Max Gallo, mais la consolation est bien maigre. Et se justifie ainsi la suppression par le premier consul en 1803 de la classe des sciences morales et politiques, peuplée, que mes confrères me pardonnent, d'historiens imposteurs. Peut-on faire confiance aux historiens ? Faut-il brûler les livres d'histoire et supprimer une nouvelle fois l'Académie des sciences morales et politiques ? C'est au tour de cette angoissante question que se sont développées les communications présentées cette année à notre Académie et que je dois vous résumer. Il fallait interroger quelques grands témoins, et tout d'abord l'austère Guizot, qui ressuscita notre Académie. Notre confrère Gabriel de Broglie nous rassura. Non, la classe des sciences morales et politiques n'avait pas été supprimée pour cause de scepticisme consulaire envers les historiens, mais en raison de son opposition idéologique au consulat. La cause était plus honorable. Il ajouta que l'on pouvait faire confiance à Guizot comme historien en dépit de son idéalisme. Et notre confrère fut un brillant avocat. Suivi Prosper Mérimée, une autre approche de l'histoire dont se chargea M. Xavier Darcos, le meilleur connaisseur de l'homme et de l'œuvre. Conclusion, le sceptique Mérimée croyait, lui aussi, en l'histoire. Nous passâmes à Sacha Guitry, qui, mieux que M. Jean-Piat, aurait pu nous l'évoquer. Guitry, c'est une autre histoire, légère, spirituelle, excitante, celle qui met en scène Bonaparte rencontrant Napoléon sur les Champs-Élysées. Bonaparte demande à Napoléon « Tu recommencerais ?»« Oh non, pas pour un empire !» répond Napoléon. Charles de Gaulle a toujours eu une passion pour l'histoire, est venu nous rappeler le professeur Alain Larcan. Il a enseigné l'histoire avant d'y entrer de plein pied. Il a tiré sa légitimité de son action historique et on ne trouve trace nulle part dans ses écrits du scepticisme hellénien de Napoléon. Et que dire de Chateaubriand, dont notre correspondant Jean-Paul Clément, qui le connaît si bien, a souligné comment, face à Napoléon, Chateaubriand entendit sortir du mythe pour entrer dans l'histoire. Lorsque, dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourager sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Restait à apprendre du sociologue Pareto le bon usage aujourd'hui de l'histoire, c'est l'excellente leçon proposée par le professeur Bernard Valade. Tous les champs sont-ils ouverts à l'historien ? Non, a répondu magistralement notre confrère Jean Béchler à propos de l'histoire universelle. Et pourtant, il a laissé, non sans humour, une issue. Je le cite, « Je ne vois qu'une justification raisonnable en dehors des satisfactions que l'on peut trouver dans les efforts consacrés à l'impossible, c'est donner, en échouant, l'occasion à d'autres plus heureusement dotés d'échouer moins, voire de réussir mieux. » La réponse est positive pour l'histoire de la médecine. Selon le docteur Jean-François Lemaire, orfèvre en la matière, pour le climat, dont notre confrère Emmanuel Leroy-Ladurie est le spécialiste incontesté, et pour la gastronomie, selon le docteur Jean Vitaud, qui nous fit venir l'eau à la bouche. Chaque fois, des mythes ont été écornés. Des blessures de guerre du maréchal Oudinot, dont le docteur Lemaire a mis en lumière la très relative gravité, à l'éponge imbibée de vinaigre tendue au Christ, geste nullement de dérision, a montré le docteur Vito, mais normal, le vinaigre entrant dans la boisson du légionnaire comme stimulant et désinfectant. Quant au rapport de l'historien avec le journaliste, le premier peut-il ignorer le second ? Le journaliste ne fait-il pas aussi œuvre d'historien ? Et alors que les banlieues flambent, c'est le domaine pour l'instant du journaliste, demain ce sera celui de l'historien. Tel fut le thème de la remarquable communication de M. Henri Pigeat. L'histoire a-t-elle pu échapper aux médias ? Intervenant à son tour, M. Jean-Louis Servan-Schreiber rappelle l'histoire vue s'imprime davantage en nous que l'histoire lue, car les images deviennent souvenirs plus facilement que les mots. Or, l'histoire vue est toujours une histoire déformée. Et pourtant, on peut tourner des films historiques et faire mentir le fameux adage « documentaire, documenteur ». C'est ce qu'a démontré le cinéaste Jean Cheyras, normalien et agrégé d'histoire, à partir d'extraits de ses propres films, extraits qui ont séduit notre compagnie. Il est vrai qu'il se plaçait sous le patronage de Lumière et non de Méliès. Trop d'erreurs ont condamné la fiction historique au cinéma. Qui ne se souvient, dans une évocation des orgies de la Tour de Nesle, de Marguerite de Valois portant un slip petit bateau délicieusement coquin mais fâcheusement anachronique, sans parler de cette version hollywoodienne de Quentin du Roy, où le héros se rend d'un pas ferme vers le château de Louis XI, le château de Plessis-les-Tours. Sur l'écran, paraît Chenonceau, construit bien plus tard. Et un sous-titre précise à l'intention de l'Américain moyen, Castle of Chambord, château de Chambord. Deux erreurs en un seul plan, c'est beaucoup. Avec quel brio Madame Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt nous a initiés au charme du roman historique menacé des mêmes périls que le film de fiction, un genre auquel elle a donné deux chefs-d'œuvre, L'Allée du Roi et La Chambre. Le nom de Dumas fut à peine prononcé, peut-être parce que le père des trois mousquetaires ne fut pas, hélas, de l'Institut. Il est vrai qu'il considérait que l'on pouvait violer Clio, ce qui est fâcheux, mais, disait-il, à condition de lui faire de beaux enfants, ce qui est excusable. Quant au roman tout court, M. Robert Kopp, correspondant de notre Académie, va nous montrer qu'il constitue une source importante pour l'histoire au présent. Enfin, Mme Martine de Boisdeffre nous a montré le chemin de la vérité, les archives nationales, dont elle nous a conté l'histoire et décrit l'organisation avec toute la passion qu'on lui connaît. Il y a toutefois plus d'ombre au tableau que ne pourraient le faire croire ces résumés de communication. À un auteur qui lui affirmait avoir écrit un livre objectif, Sacha Guitry répondit à condition de ne pas le signer. Comme toujours, il avait raison. Il y a la Jeanne d'Arc de Michelet, le Louis XIV de Lavis. Toute biographie est subjective. L'historien est incapable de s'effacer, de poser sur son sujet le regard froid du libertin sur sa proie qu'il n'aime ni ne hait. L'objectivité, une illusion. L'histoire, on l'a dit, est écrite par les vainqueurs. Elle est le reflet de convictions. Bossuet voit dans la Providence le ressort de l'histoire. Pour une génération qui suivit la Seconde Guerre mondiale, c'est la lutte des classes qui en était le moteur. Ajoutons que l'historien doit subir la concurrence de l'homme politique qui, faute de prise sur l'événement actuel, refait ceux du passé. La liste des hommes politiques qui courtisent Clio est longue, on peut s'en réjouir après tout, pourquoi pas. Reste que la subjectivité, à nouveau, se retrouve évoquée. M. Jean Descartes a souligné avec force la malveillance des historiens à l'égard d'un second empire particulièrement calomnié. Il n'est pas bon d'avoir la littérature contre soi, en l'occurrence Hugo et Zola. Les grands hommes ont bien compris le poids de la littérature dans l'image qu'ils entendaient laisser à la postérité. Louis XIV eut Racine et Boileau. Napoléon, la génération romantique qui suivit son règne. De Gaulle, Mauriac et Malraux. François Mitterrand, Marguerite Duras et Françoise Sagan. On a les écrivains qu'on peut. L'Ancien Régime ne fut pas mieux traité, confirme notre confrère Dupaquier. Un destin se joue dans les manuels d'histoire à l'usage des écoles ou des lycées, Ponson ou Petit Lavis. Notre confrère Alain Besançon l'a mise en lumière pour l'histoire russe qu'il connaît à merveille. Il eut pu ajouter comment, après sa chute, le nom du redouté chef de la police de Staline, Beria, disparut de l'encyclopédie soviétique, remplacé par Bering Détroit 2 de la même longueur. On peut faire disparaître un homme d'État en l'oubliant volontairement dans un dictionnaire. Immense pouvoir, qui est surtout celui de l'éditeur. L'historien, et c'est sa faiblesse, écrit pour être lu. Ce n'est pas une image, une machine plus exactement enregistreuse du passé et indifférente à son sort. Or, pour être lu, il faut trouver un éditeur. Certes, il y a Internet, mais Internet, c'est le fugace, l'impalpable, rien de comparable au livre. L'historien dépend donc de l'éditeur. Le choix de l'éditeur, tel fut le thème évoqué par M. Denis Maraval, directeur des collections historiques chez Fayard. Il fut écouté avec respect. Partiaux, tributaire du choix de l'éditeur qui peut condamner à l'oubli certains sujets, certaines périodes ou une civilisation entière, les livres d'histoire sont de surcroît menacés par l'obsolescence, nous a brillamment expliqué M. François Monnier, directeur de la revue administrative. Il n'y a pas d'histoire définitive. L'histoire n'est qu'un capital de connaissances qui se dit précis, s'érode sous l'effet du temps au bout d'X années. Vieillissement dû à l'innovation en histoire comme en économie. Le livre d'histoire est une denrée périssable. Il ne peut espérer qu'une durée de vie de 30 à 40 ans. Sans doute, a-t-on évoqué lors du débat, Thucydide et Fustel de Coulanges. Oh, ils ne sont plus, a-t-on fait remarquer, que des classiques poussiéreux. Du moins, la voie est-elle ouverte ainsi à de nouveaux historiens. Et à une nouvelle histoire. Notre confrère Jean-Claude Casanova nous a passionnés en évoquant l'histoire avec des « si ». Et si Jeanne d'Arc avait pris Paris ? Et si Napoléon n'avait pas été battu à Waterloo ? Et si Pétain avait quitté Vichy en novembre 1942 ? Une autre histoire commence alors. Comme lorsque le professeur d'histoire dans Les enfants du bon Dieu d'Antoine Blondin oublie de faire signer les traités de Westphalie en 1648. Tout s'enchaîne en Europe d'une façon différente et permet d'éviter plusieurs guerres. Si, encore que, qui ne se souvient du voyageur imprudent de Barjavel ? Le héros, qui déteste Napoléon, et dispose d'une machine à remonter le temps, décide d'aller tuer Bonaparte au siège de Toulon pour éviter les hécatombes qui suivront. Si Bonaparte était mort au siège de Toulon. À Toulon, notre personnage aperçoit Bonaparte facilement reconnaissable. Il tire sur lui, mais un soldat s'interpose et c'est ce soldat qui est tué. Or, c'était l'ancêtre de notre héros. Celui-ci n'existe plus, faute de géniteur, et Bonaparte pourra connaître la carrière que l'on sait. Dans Napoléon apocryphe de Geoffroy, Napoléon triomphe en 1812 en Russie. fait la conquête de l'Inde, puis de la Chine. Maître du monde, il rentre en France en mai 1821. Comme il traverse l'Atlantique sur la route de Chine, il aperçoit un îlot rocheux. Il demande son nom. « Sainte-Hélène », répond le capitaine. Et soudain, ce 5 mai 1821, Napoléon succombe à un malaise cardiaque. Tout repart à zéro. Il n'a pas été possible, faute de temps, d'évoquer un problème nouveau, celui du juge se substituant à l'historien pour dire la vérité historique. Celle-ci ne s'affirmera bientôt plus dans les bibliothèques, mais dans les prétoires. Et voilà l'historien relevant désormais de la procédure judiciaire. Fin de l'histoire. Nous attendons la réponse de notre confrère Bernard Bourgeois qui clôturera ce cycle sous l'égide de la philosophie de l'histoire de Hegel. Mais déjà Volney, l'un des pères de l'Institut, dans ses leçons sur l'histoire prononcées à l'éphémère École normale de l'an III, condamnait cette prétendue science. Et bien que parfait thermidorien et idéologue, rejoignait Napoléon. Plus j'ai analysé l'influence journalière qu'exerce l'histoire sur les actions et les opinions des hommes, plus je me suis convaincu qu'elle était l'une des sources les plus fécondes de leurs préjugés et de leurs erreurs. Alors, comment, dans ces conditions, ne pas rêver d'un monde sans histoire? À peine un événement aurait-il lieu qu'il serait aussitôt effacé des mémoires. On ne vivrait plus que dans le présent. La maladie d'Alzheimer nous frapperait tous en sorte qu'au devoir de mémoire se substituerait l'obligation d'oubli. Nous, Parisiens, passerions devant la colonne Vendôme sans savoir ce qu'elle représente. Les noms des rues et des places, Général Leclerc, Jean Jaurès, Wagram, ne nous diraient plus rien. Les livres d'histoire seraient proscrits des librairies. Utopie ? Mais pensons aux fellahs égyptiens en 1797 qui vivaient à l'ombre de monuments en ruine dont la signification leur échappait puisqu'ils ne pouvaient en déchiffrer les inscriptions. Le passé était aboli. Ils ignoraient Ramsès et Aménophis, paisiblement. Il se contentait d'attendre les crues du Nil. Paisiblement, car l'absence de passé signifie l'absence de mauvaise conscience, l'absence de polémique, l'absence d'esprit de revanche. C'est l'histoire qui crée les guerres. Tous les dictateurs, tous les conquérants y font référence. L'histoire justifie tout, massacre, viol, pillage. Excité par le souvenir du passé, on rend à l'ennemi la monnaie de sa pièce. Tel fut le terrible engrenage des conflits franco-allemands. Supprimons l'histoire et la paix s'établit dans le monde sans avoir besoin de l'ONU ou de futurs prix Nobel. Mais est-ce aussi simple? Tout ne s'explique pas par le passé, mais plutôt par la nature humaine. Que ce soit des remarques de Napoléon, le plus illustre des conquérants, qui nous conduisent à de telles constatations, auraient de surcroît de quoi inquiéter. Que serait un monde sans histoire? Un monde où l'on s'ennuierait? Et quel meilleur dérivatif à l'ennui que l'événement. Les fellahs de 1797 n'ont vécu tranquille qu'un temps très court. L'histoire débarqua rapidement à Alexandrie avec le général Bonaparte à la tête d'une pléiade de membres de l'Institut dont plusieurs historiens, Ramsès et Aménophis, ressuscitèrent. on n'échappe pas à Clio. Muse monteuse, volage, et trop souvent violée, mais finalement si charmante, bien plus charmante que ses sœurs Melpomène et Rateau et les autres. Il y a plus d'agrément à lire une biographie, même volontairement noircie, de Lucrèce Borgia qu'à déchiffrer une fiction inspirée par le nouveau roman. L'émotion est la même que l'on découvre une nouvelle planète ou que l'on détache une liasse de lettres inédites d'un grand homme. Qu'elle soit un art ou une science, qu'on la déclare quantitative ou narrative, qu'on la veuille philosophique ou érudite, qu'importe. L'histoire est la meilleure source de l'émotion et du plaisir. Chers confrères, mesdames, messieurs, malgré critiques ou réserves, continuez à faire semblant de faire confiance aux historiens.
Après M. Jean Tullard, que vous venez d'entendre, c'est le vice-président M. André Damien qui a proclamé le palmarès de l'Académie pour l'année 2005. Chaque année, en effet, l'Académie des sciences morales et politiques distribue plus de 50 prix, bourses et médailles qui récompensent des ouvrages imprimés ou des thèses dactylographiées dans des domaines très variés en lien avec la diversité des compétences représentées à l'Académie, philosophie, histoire, sciences politiques, droit, économie, sociologie, etc. L'Académie entend ainsi rendre honneur de cette façon non seulement aux lauréats récompensés pour leur mérite, mais aussi aux fondateurs qui lui ont fait confiance pour perpétuer la mémoire de leur nom et accomplir avec constance et fidélité leur volonté. Canal Académie, tout au long de l'année, vous présentera les ouvrages primés dans ses différentes émissions. Après lecture de ce palmarès 2005 par M. André Damien, c'est M. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, qui va dresser le bilan de l'Académie pour l'année 2005.
Il me semble que pour l'Académie des sciences morales et politiques, l'année 2005 aura été une année faste dans l'ensemble. D'abord par le succès des communications hebdomadaires qui nous ont été présentées sous la brillante présidence de Jean Tullard. Jamais, sans doute, le nombre des auditeurs et spectateurs de ces communications n'avait été aussi élevé, notamment grâce aux retransmissions de Radio-Canal Académie, aux transcriptions sur notre site Internet et également aux retransmissions matinales sur France Culture l'été dernier. Succès aussi dont témoignent le nombre et le montant des prix ainsi que la qualité des lauréats dont les noms viennent d'être annoncés par notre vice-président André Damien. Succès enfin obtenu par deux grandes célébrations que l'Académie a eu l'honneur d'organiser cette année. La première de ces célébrations a été l'hommage rendu à l'un de nos membres les plus célèbres, Alexis de Tocqueville, né il y a 200 ans. Une telle commémoration appartient évidemment à la vocation mémorielle de notre compagnie. Pour autant, sa portée ne se limite pas à l'évocation nostalgique d'une grande figure du passé, bien au contraire, comme l'a rappelé Raymond Boudon, Tocqueville est notre contemporain. Son exigence d'une analyse scientifique des phénomènes sociaux est même la pierre de touche de ce que nous appelons les sciences morales et politiques. Chaque orateur, parmi lesquels nous comptions un membre de la Cour suprême des États-Unis ainsi que M. Valéry Giscard d'Estaing, chaque orateur nous a rappelé combien sont pertinentes pour la compréhension de notre époque les observations et les réflexions de l'auteur de la démocratie en Amérique. L'Académie a d'autre part tout au long de l'année organisé les manifestations officielles du centenaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Je ne voudrais pas anticiper sur les discours qui seront prononcés le lundi 5 décembre, notez la date, lundi 5 décembre, ici même, sous la coupole, pour la clôture de nos travaux sur ce sujet, mais simplement souligner la portée historique que revêt pour l'Académie cette mission. En 1832, lors de sa refondation par Guizot, l'Académie des sciences morales et politiques fut conçue comme la conseillère des pouvoirs publics, agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement. La procédure d'autosaisine est d'application courante. L'Académie n'a pas manqué au cours des dernières années de saisir motu proprio les pouvoirs publics dès que cela lui apparaît utile, notamment au sujet de la réforme du recensement, de la brevetabilité du vivant, de la traduction des brevets européens, etc. Au contraire, la saisine de l'Académie par le gouvernement est d'une application si exceptionnelle qu'il n'y en a eu que deux cas en près de deux siècles. La première demande a eu lieu en 1837. Elle a été suivie du très célèbre rapport Villermé sur la condition physique et morale des ouvriers dans l'industrie textile, qui déboucha sur la première loi sociale française. Et la seconde concerne précisément la célébration par l'Académie, la commémoration de la loi de 1905 à la demande du Premier ministre. Et je dois ici rendre tout particulièrement hommage au rôle joué par mon prédécesseur Jean Cluzel, ainsi que par notre vice-président André Damien, ancien conseiller pour les cultes de deux ministres de l'Intérieur successifs et à qui nous avons confié le soin de piloter l'ensemble de cette commémoration de la loi de 1905. Trois grands colloques ont été organisés. Un quatrième et dernier se tiendra du 28 au 30 novembre. Ces colloques ont bénéficié de la participation de plus de 1000 personnes, sans compter l'initiative prise par la Conférence nationale des académies de province, dont l'Assemblée générale vient de se tenir à Paris. Les académies membres de cette « République des savants », entre guillemets, ont travaillé sur l'application de la loi dans leur région. De même, nos colloques ont attiré bon nombre de personnalités étrangères, parmi lesquelles je tiens à saluer particulièrement le secrétaire général de l'Église anglicane. Dans l'exécution de cette mission nationale, l'Académie s'est efforcée de transmettre au plus large public possible une information assurée, fondement nécessaire de toute réflexion sérieuse. Nous avons déjà parlé de l'histoire de la laïcité à la française, mais je tiens à le répéter, car ce livre, dirigé par Jean Tullard et André Damien, abondamment illustré, retrace les origines de cette exception française et il connaît déjà un véritable succès de librairie. Une seconde publication aura lieu en mars prochain. Ce sera la reprise des communications prononcées dans nos colloques, pas moins de 450 textes rédigés par les meilleurs spécialistes. Et cela dans un DVD-ROM à usage du grand public et du monde éducatif. Comment enfin ne pas rappeler ici qu'en 2005, nous avons croisé le cours de l'histoire avec un grand H. En effet, pour la première fois dans la longue histoire de l'Académie des sciences morales et politiques, l'un de ses membres est devenu pape. C'est que depuis 1992, son éminence, le cardinal Joseph Ratzinger, comme André Damien le rappelait tout à l'heure, était l'une des 12 hautes personnalités étrangères, élus membres associés de notre Académie. À deux reprises dans la période récente, le cardinal Ratzinger avait tenu à venir s'exprimer devant l'Académie et ses communications sont naturellement disponibles sur notre site. Le faisceau des principaux événements qui marquent ainsi, pour nous, l'année 2005, n'est pas le fruit du hasard, mais de la participation de tous et de l'effort de certains, tout particulièrement. À commencer évidemment par vous, monsieur le chancelier Pierre Messmer, il n'est nullement exagéré de dire qu'à partir de 1995, date à laquelle vous avez été élu secrétaire perpétuel, le cours de l'histoire de notre compagnie a été profondément modifié. En 10 ans, sous votre autorité puis sous celle de Jean Cluzel, l'Académie s'est de mieux en mieux adaptée aux nouvelles conditions du monde moderne afin d'y assumer ses responsabilités intellectuelles et morales. J'en donnerai 2 exemples. Le premier est issu d'une étude de notre confrère, le démographe Jacques Dupaquier, qui a démontré que notre compagnie vieillissait encore plus vite que la société française. Il était donc nécessaire de combattre cette évolution naturelle. Une première réforme fut adoptée en 1994, limitant le mandat du secrétaire perpétuel à une durée de 6 ans non renouvelable. C'est ainsi que depuis le début de cette année, je suis un oxymore, à la fois immortel, perpétuel et titulaire d'un CDD, un contrat à durée déterminée. Cette singularité n'est pas dépourvue d'un certain charme poétique. La seconde réforme, inscrite dans un décret du 24 août dernier, déclare inéligible à l'Académie tout candidat âgé de plus de 75 ans, le 1er janvier de l'année de la mort de la personne au fauteuil duquel il prétendrait. Notre Académie n'est pas un club fermé, mais un centre d'intelligence des grandes questions du monde contemporain. Comme le disait ici même notre regretté confrère, le philosophe Raymond Poulain, en 1992, nous devons avoir avant tout le souci de comprendre et de voir clair, car la diffusion de nos travaux est devenue une tâche essentielle en notre époque médiatique. C'est ce défi nouveau que mon prédécesseur Jean Cluzel a très lucidement et courageusement entrepris de relever en créant la première radio web académique francophone, Radio Canal Académie, qui met sur les ondes l'incomparable patrimoine intellectuel de notre compagnie. Pas moins de 500 émissions enregistrées depuis 2 ans sont en accès libre dans la médiathèque du SIC, tandis que chaque semaine ont pu être diffusées jusqu'à 15 heures de programmes frais, comprenant, entre autres choses, les retransmissions en direct de certaines de nos séances dont Jean Tullard a fait le résumé tout à l'heure. Gérée dans un premier temps en régie directe comme les autres activités de l'Académie, Radio-Canal Académie est devenue cette année, en 2005, une véritable entreprise indépendante à structure associative, largement ouverte notamment au partenariat des autres académies. Jean Cluzel inaugure ainsi un nouveau type d'académicien, l'immortel qui se fait créateur d'une entreprise que l'on me pardonnera de qualifier ici de start-up. La vocation de notre académie consiste, je l'ai rappelé, à examiner les grandes questions du moment. Je me bornerai ici à proposer un éclairage sur l'un des problèmes fondamentaux que rencontre notre pays. Ce problème est défini comme suit par le rapport que Michel Cantsu, ancien gouverneur de la Banque de France, a adressé au gouvernement il y a 1 an et au titre duquel il vient de recevoir le prix Zerilli Marimo. Ce texte, le voici, le traitement que nous les Français, le traitement que nous réservons aux jeunes est un véritable symbole de nos dysfonctionnements. Cela était écrit il y a plus d'un an. À travers l'augmentation de la dette, ce sont eux qui paieront en effet les déficits des services publics que nous utilisons aujourd'hui. Ce sont eux qui, demain, en violation flagrante d'un des principes du développement durable, supporteront directement la charge de la réduction de la vie active que nous sommes octroyés. Enfin, c'est sur eux que se concentrent dès maintenant l'insécurité et la précarité, taux de chômage, CDD. Les jeunes, écrit le rapport Cantsu, les jeunes sont les grandes victimes de l'absence d'adaptation de notre modèle social. Je me bornerai à en prendre quelques exemples. Le premier a déjà été évoqué par André Damien, c'est le nouveau laxisme de la gestion des finances publiques depuis 1980, qui constitue un véritable contresens anti-jeune. Pendant 20 ans, la Ve République avait été exemplaire en matière de finances publiques. Depuis lors, le budget de l'État a été en déficit pendant 23 ans sur 25, et le volume de la dette publique, là je précise les chiffres, le volume de la dette publique est passé de 20% à 65% du PIB. Ce déficit pèsera d'ailleurs d'autant plus lourd sur les jeunes générations qu'il convient d'y ajouter un endettement latent et non comptabilisé qui représente deux fois le montant direct de la dette de l'État. Autre exemple, les conditions de la compétitivité internationale exigeraient que la France se spécialise sur les technologies les plus avancées, donc les plus dépendantes des investissements en recherche et développement. Or, si l'effort national consenti dans la période récente au profit de l'éducation nationale a été important, la priorité budgétaire a été concentrée sur l'enseignement secondaire. Alors que, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les dépenses par étudiant sont supérieures de près de 80% aux dépenses par collégien ou lycéen, en France, cas unique, elles sont quasiment égales. Il en résulte un sous-équipement des universités, notamment en matière de bibliothèques, de laboratoires et plus généralement de moyens de recherche. Les trois chiffres suivants ne peuvent, me semble-t-il, que susciter la stupéfaction. Quel est le montant global du budget des universités ? Moins de 15 milliards d'euros. Quel est le montant du budget civil de la recherche scientifique ou technologique également? Moins de 15 milliards d'euros. Quel est, troisièmement, le déficit annuel de l'assurance maladie? Largement plus de 10 milliards d'euros. Autrement dit, la France accepte que le seul déficit de l'assurance maladie soit d'un ordre de grandeur comparable à tout son budget universitaire d'une part, à son budget civil de recherche et de développement d'autre part. Troisième exemple, la France souffre d'un énorme déficit d'emploi des jeunes entre 16 et 25 ans. Leur taux d'emploi est d'environ 24% contre une moyenne de 44% pour l'OCDE, un rapport quasiment de 1 à 2. Ce phénomène est lié en partie à la durée interminable des études en France. Mais même si on accepte la population étudiante, le taux d'emploi demeure faible et le taux de chômage élevé chez les jeunes. Cette situation résulte dans une large mesure de quatre contresens, d'autant plus redoutables qu'ils bénéficient d'un fort appui populaire. Tous relèvent de l'idée qu'en réduisant le nombre des plus âgés au travail, on fait automatiquement de la place pour les plus jeunes. Cette idée a fait l'objet depuis les années 80 de quatre applications principales. 1. La cinquième semaine de congés payés. 2. L'âge légal de la retraite abaissée à 60 ans, alors que dans les pays les plus modernes, on la remonte et on la remonte au-delà de 65 ans. Troisièmement, la multiplication des pré-retraites et retraites anticipées qui fait qu'en moyenne, les travailleurs masculins en France partent en retraite à 57 ans. Et enfin, la réduction à 35 heures, on le sait, de la durée légale du travail. Quelles ont été les conséquences de ces mesures qui sont, je le répète, en principe destinées à ouvrir aux jeunes les portes de l'emploi? L'OCDE a prouvé que toutes ces mesures de réduction de la durée du travail ont abouti en fait à des résultats opposés aux objectifs visés. La France est un pays dont les résultats des politiques de l'emploi sont des plus médiocres. Ainsi, les pays qui ont supprimé les incitations aux pré-retraites sont ceux dont les taux de chômage des jeunes sont les plus bas. À l'inverse, en France, la législation dite de protection de l'emploi, je cite l'OCDE, évite temporairement certaines destructions d'emplois, mais grâce à un coût exorbitant qui dégrade les conditions financières des entreprises et réduit leur emploi total. Fin de citation. L'un des défis les plus redoutables que la France doit relever consiste à faire comprendre à l'opinion publique que ce n'est pas le partage du travail, mais sa croissance qui permet seul de créer davantage d'emplois. Le fait que toute une série de mots tels que libéral, marché, concurrence et même compétitivité soient souvent des mots péjoratifs dans notre pays montre combien il est urgent de libérer l'opinion française de ces vieux préjugés anti-économiques qui expliquent notamment l'extraordinaire succès de livres qui n'ont point été couronnés par notre Académie. Par exemple, « L'horreur économique » de Viviane Forrester il y a quelques années, ou encore paru l'an dernier, celui de Corinne Maillère, symboliquement intitulé « Bonjour paresse ».« Bonjour paresse » de l'art et la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise. Voilà bien un sujet qui, me semble-t-il, ne peut manquer d'intéresser la compagnie de grands-parents que nous sommes, et je suis particulièrement heureux que la Fondation Del Duca, présidée par le chancelier Messmer, ait décidé d'investir, à travers notre Académie, sur ce fait aussi fondamental qu'ignoré, à savoir que la France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Dans les années 20, nous avions inventé l'Allemagne, le slogan « L'Allemagne paiera », nous savons ce qu'il en est advenu. Aujourd'hui, le slogan implicite de nos politiques sociales est « L'État paiera ». Or, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement « Nos petits-fils paieront », en un mot, après moi, le déluge. Et cela au moment précis où notre jeunesse, cette même jeunesse, est confrontée au défi sans précédent d'une mondialisation qui, tout à coup, se révèle à bien des égards explosive par la violence des contrastes qui opposent l'évolution de l'Europe à celle de l'Asie. Pour l'Europe, il y eut en 2005 une date véritablement historique. C'est le 29 mai, date du non français au projet de traité constitutionnel initié par la France et préparé sous l'autorité de Valéry Giscard d'Estaing. Ce 29 mai 2005 doit s'inscrire dans les mémoires par symétrie mnémotechnique par rapport au 9 mai 1950, date historique de la déclaration Schuman qui a posé la première pierre de la construction de l'Europe communautaire. En effet, alors que la non-Europe du 29 mai s'effrite, s'effiloche, s'affaisse, voici que l'Asie et surtout la Chine s'imposent à toute l'économie mondiale par un véritable décollage vertical, comme l'a si bien montré notre lauréat Eric Israelevich. Je n'emploie pas ici une image abstraite, je me borne à visualiser deux chiffres et un symbole. Le premier chiffre donne une mesure de la déferlante des importations en Europe de vêtements originaires de Chine. Entre le premier trimestre 2004 et le premier trimestre 2005, les importations européennes de pullovers chinois, par exemple, on pourrait prendre d'autres exemples, ont augmenté de plus de 500% en un an. Le second chiffre est le suivant. Alors que le PIB de la Chine n'est encore que de 4% du PIB mondial, 50% du nombre des grues installées dans le monde se trouve aujourd'hui en Chine, à la verticale dans le ciel. Et voici le symbole. En 2005, la société chinoise Lenovo a acheté la division ordinateur personnel d'IBM, je dis bien. Ce n'est pas le tout-puissant IBM qui achète un inconnu chinois dénommé Lenovo. C'est Lenovo qui conquiert les œuvres vives d'IBM. Et cela se passe en 2005. C'est aussi en 2005 qu'a été inauguré à Taipei, capitale de Taïwan, la tour la plus haute du monde, culminant à 525 mètres, soit près du double de la tour Eiffel. Cette tour 101, dite tour 101, a été construite dans une zone soumise à de fréquents séismes pour parer contre le risque de déstabilisation. Un dispositif aussi audacieux qu'ingénieux a été mis en place. Au 89e étage, de cette tour de bureau, le visiteur découvre une énorme sphère d'acier qui pèse 656 tonnes et qui est suspendue à l'intérieur de la tour par d'énormes câbles qui la maintiennent à la verticale. Si donc un tremblement de terre fait pencher la tour d'un côté, l'énorme sphère d'acier, parce qu'elle reste verticale, exerce une force de rappel dans l'autre sens, ce qui conforte la stabilité de l'immense édifice. Naturellement, j'ai découvert cela grâce à un voyage à Taïwan dans le cadre de la fondation franco-taïwanaise créée par le chancelier Messmer et qui a été tout à l'heure récipiendaire du prix que vous vous souvenez. Cette extrême audace architecturale dans l'ordre de la vérité, de la verticalité est l'œuvre d'un petit pays au dynamisme remarquable, avec laquelle notre compagnie entretient donc des relations privilégiées. Cette audace peut, me semble-t-il, présenter pour nous une valeur symbolique. Notre vocation académique n'est-elle pas aussi, dans la société perturbée et en quelque sorte sismique qui est la nôtre, de maintenir l'irremplaçable repère de la verticalité.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, de nous avoir rappelé que les travaux de notre Académie sont ancrés dans l'actualité, dans la réalité. Nous ne sommes pas pour rien, sciences morales et politiques, mais aussi, effectivement, économiques. Avant de lever la séance, il me faut vous remercier d'être venus si nombreux et d'avoir approché, ou peut-être dépassé, notre record d'affluence. Ma gratitude va tout particulièrement dans l'assistance à ceux qui ont honoré l'Académie par leur participation à nos communications. J'ai reconnu dans l'assistance le professeur Larcan, le docteur Jean Vitaud, Jean Piat, Jean Chéras, Henri Pigeat, Denis Maraval, Jean-Louis Servan-Schreiber, qu'ils sachent combien je leur suis reconnaissant de cette participation et de cette animation qu'ils ont donnée à nos réunions. Le thème choisi l'année prochaine sera la justice. La volage Clio laissera donc la place à l'austère Thémis. Austère peut-être parce que, avec M. André Damien, celui-ci saura nous la rendre plaisante, nous n'en doutons pas. Adieu Clio, bienvenue Thémis, la séance est levée.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie des sciences morales et politiques qui s'est tenue le lundi 7 novembre 2005 et vous avez pu écouter les discours de M. Jean Tullard et de M. Michel Albert.